C'est vous qui le dites.
L'émission d'info locale.
Brest.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est vous qui le dites, notre quotidienne d'info locale du lundi au jeudi. On continue les interviews pour les municipales. Je suis donc toujours accompagnée de Roman, notre cordeau d'antenne. Coucou Roman.
Bonsoir tout le monde.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci Mayouen.
Trop bien. Alors on rappelle que du coup on est en direct, c'est donc difficile pour nous de vérifier toutes les infos qu'on nous donne. Alors bien sûr, si une info vous fait tiquer, n'hésitez pas à faire vos recherches chez vous et nous envoyer un message ensuite pour qu'on puisse la rectifier.
Exactement, et je rappelle que c'est une émission qui est tenue par Mayouen et Service Civique, c'est une émission qui n'est pas tenue par des journalistes professionnels. Voilà.
Alors aujourd'hui, on est avec Franck Bessombe, tête de liste de Retrouver Brest, qui s'identifie à une droite traditionnelle. Bonjour Monsieur Bessombe.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation.
Et bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, comme on expliquait tout à l'heure en antenne, le parti pris qu'a pris Radio U pour ses municipales, c'est d'inviter tout le monde et de poser les mêmes questions à tout le monde, mais notamment les questions qui vont concerner nos auditeurs et nos auditrices, en tout cas qui les préoccupent. Et donc, pour commencer, pour une radio étudiante, il est important pour nous de parler des étudiants et je te laisse enchaîner, Mayouen.
Alors, d'après une enquête sortie par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, le 24 février, un étudiant sur trois est mal logé et le loyer mensuel moyen en France est de 491 euros. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser concernant le logement à Brest ?
Alors, concernant le logement à Brest, le logement étudiant est une des préoccupations pour Retrouver Brest. Nous avons eu un accroissement du nombre d'étudiants de 17% sur 10 ans. Et nous partageons ce constat d'un mal logement et nous entendons agir avec détermination. Hein, c'est la ligne d'ailleurs de Retrouver Brest, déterminée mais raisonnable. Et nous pensons que pour les étudiants, nous pouvons aussi aller avec de nouvelles formes de logement, une forme d'innovation dans le logement, que ce soit notamment sur l'intergénérationnel ou des logements à loyer très modérés, puisque notre sujet pour nous, c'est de réussir à ancrer un certain nombre d'étudiants à Brest et qu'ils puissent trouver du travail. Et c'est pour ça que nous serions prêts à imaginer des systèmes où les années étudiantes avec des loyers très faibles et puis avec un retour à un loyer conventionnel avec les premières années de travail.
Donc qui serait soutenu financièrement par la ville.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait l'idée. Nous avons dit, je crois que d'ailleurs nous sommes la seule liste à avoir évoqué le sujet, nous considérons qu'il nous faut un audit général du logement pour y voir clair ici à Brest. Mais s'agissant du logement étudiant, c'est très clairement inscrit dans notre programme. Nous faisons ce constat d'un manque de logements et donc nous sommes prêts à financer ces logements. Ça nécessitera bien entendu de travailler aussi avec les instances universitaires et je pense spécifiquement au CROUS, bien sûr. Quoi.
Tout à fait.
Alors cette crise du logement, elle est bien sûr directement reliée à la baisse du niveau de vie des étudiants qui sont de plus en plus précaires. Ça pose d'autres soucis, notamment le problème d'avoir une alimentation d'abord suffisante, mais aussi et surtout saine. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les aider sur ce point ?
D'abord, je voudrais dire que tous les étudiants, pour nous, appartiennent très clairement à la communauté brestoise. Vous savez que c'est un des grands sujets de Retrouver Brest, de partager la même communauté. Et nous sommes opposés à l'idée d'une juxtaposition de communautés. Donc un étudiant, une étudiante doit pouvoir se nourrir convenablement. Et là aussi, nous sommes assez favorables à ce qu'il y ait des systèmes d'aide, de mise en place pour garantir une alimentation saine, peut-être là, nous pourrons travailler avec notamment la restauration centrale sur ce sujet. Quoi.
Et une autre préoccupation, on le sait aujourd'hui, les étudiants, mais aussi les jeunes hein, plus largement, sont en souffrance au niveau de la santé mentale. Est-ce que vous pourriez aussi les accompagner ? Est-ce que vous avez prévu des actions pour les accompagner sur ce point également ?
Oui, nous avons communiqué sur ce sujet de la santé et nous avions mis en exergue la santé mentale des jeunes, au sens large d'ailleurs, pas que des étudiants, mais aussi des collégiens, des enfants en primaire, etc. Dans l'équipe, nous avons une infirmière scolaire, elle nous a beaucoup sensibilisés à ce sujet. Et dans le cadre des maisons de santé que nous souhaitons renforcer sur l'ensemble des quartiers de la ville et notamment des quartiers prioritaires, nous envisageons de mettre en place des consultations spécifiques sur ce sujet qu'est la santé mentale. En tout cas, nous... vous savez que j'enseigne par ailleurs, puisque c'est mon métier, je suis professeur donc à l'université. Je sais très bien que 2020 a marqué un tournant important, si vous voulez. La crise de la Covid a marqué un tournant et nous avons pu constater qu'il y avait un développement de ce sujet des problématiques psychiques chez les jeunes liées aux différents confinements, à l'isolement, etc. Et nous pensons que c'est un sujet prioritaire. Parce que comment bien étudier si finalement on est en mauvaise santé pour les raisons que nous venons d'évoquer sur l'alimentation avec des retentissements psychiques en particulier.
Très bien, merci pour votre réponse. Je propose qu'on passe au point suivant, Maïwenn.
Moi, j'avais juste une petite question en plus par rapport du coup aux séances. C'est ça que vous voudriez mettre à disposition des jeunes, parce que une problématique aussi, souvent des jeunes, c'est le manque d'argent, la précarité, surtout pour les étudiants. Comment est-ce que vous feriez en sorte du coup que ces séances restent accessibles à tous et toutes?
Alors nous avons toujours dit que chez Retrouver Brest, et c'est notre ligne politique, hein, nous sommes fondés sur la solidarité. C'est-à-dire que nous considérons qu'il y a des personnes, donc les étudiants en font partie, en tout cas ceux qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément les ressources, qui n'ont pas la capacité à financer ce genre de séance, hein, tout simplement. Eh bien, la collectivité, dans le cadre de la solidarité, doit pouvoir prendre en charge ces séances, si vous voulez.
D'accord. Je pense que du coup, effectivement, on peut passer à l'axe politique culturel. Donc, le tissu associatif local joue un rôle essentiel. Comment est-ce que vous entendez leur garantir une liberté, d'action et les soutenir financièrement et matériellement?
Alors d'abord, je voudrais souligner qu'à Brest, nous avons une grande chance, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui agissent dans beaucoup de domaines. Donc c'est pas vrai partout en France, mais nous avons cette chance-là. Aujourd'hui, la collectivité soutient beaucoup d'initiatives. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à les soutenir. Simplement, nous, on les soutient avec une logique que j'appellerais une logique de projet, si vous voulez. Notre idée n'est pas forcément de venir uniquement en subvention d'équilibre, mais de financer des projets. S'agissant de la politique culturelle, mais je devance peut-être votre prochaine question, nous l'avons dit, il y a un certain nombre de projets culturels qui sont soutenus autour des arts de la rue, des arts populaires, etc. Nous souhaitons aussi, en ce qui nous concerne, retrouver une véritable offre en matière de culture classique. C'est pour ça que nous avons proposé notamment la construction d'un nouveau musée qui pourrait être dans les actuels locaux de la Banque de France et d'un auditorium pour la musique classique. Nous avons aussi d'autres offres pour les plus jeunes. Nous considérons que la culture classique doit être accessible quel que soit le milieu social, quel que soit le revenu, etc. Et c'est pour ça que nous envisageons de financer, via un système de bourse municipale, notamment les leçons pour la musique, les cours de musique, de danse, etc.
Très bien, merci. Je reviens juste sur le premier point au sujet des associations. Quand vous parlez de financer du coup des projets, est-ce que vous pouvez un peu préciser ce point-là, sur quoi vous allez vous baser du coup si on n'est pas dans le système de la subvention? Comment clarifier un peu ce point pour nos auditeurs et auditrices?
Bien sûr. Et ayant eu à gérer ce genre de sujet dans mon parcours professionnel, quoi, je pense que c'est très important de rentrer dans le cadre d'un partenariat, si vous voulez, hein. C'est-à-dire qu'une association qui vient demander une subvention, c'est-à-dire en réalité de l'argent public, doit pouvoir justifier de l'utilisation de cet argent public dans le cadre de son objet, tout simplement, puisque c'est l'objet que nous finançons, ou bien dans le cadre d'un projet spécifique. Ce n'est pas qu'un droit de tirage, en quelque sorte, quoi. Voilà. Et de ce point de vue, il y a eu des avancées, de fait, ici à Brest, sur ce sujet. Mais nous pensons qu'il faut parfaire le système et peut-être aussi permettre aujourd'hui à des associations qui n'ont pas accès aux fonds publics d'y accéder aussi. Je pense à des associations qui viennent en soutien aux enfants qui sont hospitalisés, des associations qui viennent en soutien à certaines pathologies chez les jeunes, quoi. Je sais qu'elles ne, nous les avons rencontrées et donc nous savons qu'elles ne perçoivent pas d'argent public et nous pouvons dire que nous serions assez favorables aussi à ce qu'elles bénéficient de ce soutien de la collectivité.
Est-ce que je pourrais juste revenir sur du coup le parallèle que vous avez fait entre les associations d'art de rue et de culture populaire et du coup le musée? Vous voudriez intégrer du coup les associations d'art de rue et de culture populaire du coup au musée de Brest?
Alors je ne parlerai pas de parallèle, ce sont deux offres culturelles différentes, oui, qui sont toutes les deux légitimes, si vous voulez. Alors est-ce que ça sera au même endroit? Je ne pense pas, puisqu'il y a déjà le plateau des Capucins qui accueille déjà et qui pourrait accueillir peut-être davantage demain. Mais nous pensons qu'on doit pouvoir offrir une palette d'offres culturelles à Brest qui va de la culture que je vais qualifier classique, c'est-à-dire la peinture qu'on peut trouver au musée, ou les ensembles. Moi, je rêve de faire venir des ensembles de musique classique ici. Je suis très, très fan de Zaya Ziwani et de ce qu'elle a fait en région parisienne, quoi. Je rêve qu'on puisse, dans le prochain mandat, la faire venir avec son ensemble, qui est un orchestre philharmonique. Ça demande de la place, des équipements, etc. Donc, c'est ça dont je parle, en réalité. Donc, je n'oppose pas les offres. Je dis que il doit y avoir une complémentarité d'offres pour servir finalement tous ceux qui ont envie, et on peut avoir envie d'aller écouter de la musique classique et le lendemain écouter du rap, il n'y a aucun problème.
Justement, les acteurs culturels expriment parfois des inquiétudes quant à l'avenir de la création. Comment est-ce que vous envisagez d'encourager et de soutenir la vie culturelle locale?
Alors je crois qu'il y a eu, de ce point de vue-là, à Brest, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il n'y a pas de raison d'arrêter ces efforts. En réalité, tous les types de cultures sont nécessaires. La culture, c'est une forme d'émancipation de l'esprit. Et donc la création culturelle participe aussi de la capacité à prendre de la hauteur sur les choses de la vie. Et peut-être parfois trouver le calme, la sérénité, et chacun d'entre nous étant différent, il faut respecter les différentes formes d'expression.
Donc vous encourageriez plutôt le fait de laisser de la place à chacun pour que chaque type d'art, de culture, de musique trouve sa place justement dans Brest?
Oui, je n'opposerais pas les uns par rapport aux autres, surtout pas. Sinon, ça serait contraire, si vous voulez, à ce qu'on veut faire, qui est de créer une communauté qui se rassemblent autour de l'idée que nous sommes brestois.
Très bien, merci. On va passer sur le volet éducation et numérique. Quelles actions comptez-vous entreprendre pour renforcer les moyens des écoles, améliorer les infrastructures par exemple, et soutenir les équipes éducatives à Brest, évidemment?
Alors évidemment, aujourd'hui, le sujet du numérique, c'est un grand sujet, et plus encore le sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que là, tous les acteurs, quelle que soit leur nature, collectivité, privée, éducation nationale, université, doivent contribuer à l'éducation au numérique. Moi, j'ai coutume de dire que tous ces systèmes numériques, l'intelligence artificielle en premier lieu, c'est une formidable ressource, mais qui doit rester à la disposition des hommes et des femmes, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais devenir asservi à ce système-là. doit rester un outil. Et ça, ça nécessite d'apprendre à s'en servir et d'en connaître les limites, d'en connaître les dangers. Ça doit participer effectivement des activités, en tout cas de ce que la collectivité peut développer avec le monde éducatif, mais également dans les activités périscolaires en particulier.
Très bien. Nous, un acte qu'on fait beaucoup à Radio U, c'est l'éducation donc aux médias et à l'information. On en parlait tout à l'heure hors antenne. On va être présent auprès des écoles, mais aussi des EHPAD et de plein d'autres structures brestoises et brestois, notamment aussi au niveau juste de l'information, d'apprendre à s'informer, à bien s'informer aujourd'hui sur Internet. Enfin, il y a tellement une multitude de choses. Est-ce que vous allez participer à soutenir ce genre d'initiative?
Alors, je sais que Radio U va dans les EHPAD, j'en ai entendu parler cet après-midi. Et je trouve que l'initiative est géniale. Donc, évidemment que ça fait partie des initiatives qu'il faut soutenir. Quand je vous disais que la collectivité devait aider, la collectivité toute seule ne pourra jamais rien faire. Elle doit le faire avec l'ensemble des acteurs de son territoire. Et vous êtes un acteur du territoire spécialisé dans ce domaine. Ça serait dommage de ne pas s'appuyer sur vous et donc de vous permettre de le faire.
Okay. Donc soutenir les acteurs et les actrices du territoire qui sont déjà sur le terrain, sur ces dispositifs et sur ces thématiques.
Absolument.
Très bien, merci.
On sait maintenant que pas forcément tout le monde est égaux en fait par rapport justement au numérique. Comment est-ce que vous réussisseriez à réduire la fracture numérique qui touche la population? Je pense notamment aux personnes âgées qui vont avoir un peu plus de mal avec la numérisation en fait de tous les papiers par exemple.
Oui, c'est un grand sujet la fracture numérique. Ça serait, je pense, très prétentieux de dire que nous pouvons régler l'ensemble des problèmes. Là aussi, on a besoin de mobiliser les spécialistes, les acteurs que vous êtes, etc. Et puis, je crois qu'il faut admettre aussi que, en matière d'information publique, notamment, vous évoquiez le sujet administratif, je crois qu'il faut encore admettre pour un temps que tout le monde ne pourra pas aller sur le numérique, tout simplement parce que n'en a pas ou les moyens ou la capacité, etc. Et ça doit être respecté. Et on doit pouvoir offrir aussi des alternatives, si vous voulez. Et aussi peut-être des aides. Et je pense que de ce point de vue, le CCAS dans une ville a un rôle à jouer. Je l'ai dit hier soir d'ailleurs lors de la réunion publique, puisque j'ai une question sur ce sujet-là, et je disais qu'il me paraîtrait opportun sur un certain nombre de sujets, et pourquoi pas celui-ci, de renforcer le rôle du CCAS.
C'est quoi le CCAS?
Ah, c'est le Centre communal d'action sociale.
D'accord.
Dans les,
okay.
Les quartiers de Brest.
Ok, ok.
Oui.
Peut-être on a le temps pour une dernière question.
Exactement, je propose que ça soit là-dessus.
Ouais, alors un sujet qui nous tient aussi à cœur à Radio U, c'est l'écologie. Donc les enjeux écologiques, donc mobilité, rénovation thermique, biodiversité, qualité de l'air, ils sont centraux pour tout le monde et donc les habitants de Brest aussi. Quelles sont vos priorités écologiques au niveau municipal?
Alors il y a deux thèmes que je vais aborder rapidement. Je comprends qu'on est en fin d'émission.
Tout à fait.
La mobilité, donc on a beaucoup investi à Brest sur des modes lourds, tram, BHNS, bus, etc. Pour nous, la priorité, ça sera sur des modes de transport très flexibles, électriques, quartiers, interquartiers, à la demande, etc. D'ailleurs, pour les étudiants, nous envisageons de déployer la navette qui existe jusqu'à Recouvrance, de la porter jusqu'au Technopole pour les sorties de soirée en particulier. Et puis sur la biodiversité, dans notre programme, nous avons une trame verte. La biodiversité, je le dis toujours, hein, les oiseaux, les insectes, etc., ils ne s'arrêtent pas à la porte de Brest, hein, ils n'arrivent pas à Pénarcleuse, et ils ne vont pas plus loin. Donc ils circulent en ville et à l'extérieur, et c'est cette continuité écologique qu'il faut installer en ville. Donc, d'ailleurs, c'est le début de l'histoire de Retrouver Brest. Moi, je suis très sensible aux espaces verts et aux végétaux. Je suis passionné de botanique. Quand je fais pas de, suis pas en campagne municipale, ça m'intéresse de la botanique. Et donc, c'est pour cette raison-là que je considère qu'il faut augmenter la densité verte, comme on dit, dans Brest, plus d'arbres, plus d'espace, notamment pour cette continuité écologique.
Merci beaucoup, Monsieur Besson. On va devoir s'arrêter là. Le temps nous a filé entre les doigts. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir dans C'est vous qui le dites.
Merci à vous.
Alors, avant d'écouter le reportage de Romane, une bénévole sur ce que pensent les étudiants de Brest, on va écouter Perfect Crime de Joy Crooks. Désolée pour la prononciation. Bonne écoute sur Radio U.
Late night, don't smoke. Pistols are dumb. Last time the bullet hit before my gun was drawn. You stripped my guard down, man, I can't believe. God forbid I choose my wants over my needs, but I wanna tear into another love. I wanna dare myself to crash into. Don't even know me, do ya? I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer. Bang, bang on fingers in the mirror. I won't get caught this time. Commit the perfect crime. I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer. Bang, bang on fingers in the mirror. I won't get caught this time. Commit the perfect crime. I'm gonna mix love into sex. For no side effects, I pour myself into you. Still keep a glass of me too. I get away with it, I get away with it. They'll be talking about me after I die. I wanna tear into another love. I wanna dare myself to crash into us. Think I was scared to take more than a touch. I'm a bad, bad loser. I'm a stay.
C'est le nombre d'étudiants inscrits en études supérieures à Brest en 2025. Et selon une étude de l'étudiant, elle se classe à la 11e place des meilleures villes de France où il fait bon d'étudier. Alors, qu'en pensent réellement les principaux concernés? Sont-ils satisfaits de leur cadre de vie aujourd'hui? À quelles difficultés sont-ils réellement confrontés? Et qu'est-ce qu'ils changeraient? C'est ce que nous allons voir au cours de cette petite enquête au cœur du campus. En vue des élections municipales, il semble pertinent pour Radio U d'aller à leur rencontre, récolter leur voix, leur avis et leur interrogation. Mercredi 4 mars 2026, il est 16h. Je me balade sur le campus à la recherche d'interlocuteurs. Il y en a qui jouent au foot sur le terrain stabilisé de la fac, d'autres se sont posés dehors sur des tables pour travailler, tout en profitant du beau temps. Certains discutent en se rendant à la BU, d'autres se sont même posés dans l'herbe. C'est dans ce contexte que j'ai posé ma première question. Savais-tu que Brest se place en 11e position du classement des meilleures villes où il fait bon vivre en tant qu'étudiant? Et es-tu d'accord avec cette information?
Personnellement, par rapport à d'autres étudiants que je connais qui sont situés dans d'autres villes étudiantes, je trouve que Brest n'est pas la meilleure ville étudiante. En tout cas, je ne la placerai pas 11e, je pense. Déjà, premièrement, un des facteurs principaux me concernant, c'est l'insécurité que je ressens à Brest, surtout en étant une fille, quand on sort avec des copines par exemple, ou bien de manière générale. Et enfin, on va dire les alentours, donc, c'est-à-dire les zones industrielles et tout ça, qui rendent un peu Brest une ville moins attractive.
En vrai, je ne suis pas tant que ça étonnée, parce qu'il y a pas mal de choses à faire à Brest. C'est une ville qui est plutôt agréable, juste quand il ne pleut pas. Parce que quand il pleut, il n'y a rien à faire.
Franchement, aujourd'hui, ouais. C'est surtout que comme on fait les études à Brest, on y est beaucoup plus souvent et on apprend à découvrir les lieux et toute la ville. Mais je sais qu'au début, quand moi je suis arrivé en Bretagne, puisque de base, je n'étais pas ici, c'était un peu compliqué parce que je trouvais que c'était un peu mort par rapport à où est-ce que j'habitais avant.
Moi, en soi, je me sens en sécurité parce que j'habite au niveau de Kerguet aussi. Du coup, je suis vraiment dans le campus. J'ai pas de problème. Je rentre pas trop tard non plus. Du coup, je sais pas. Je me suis pas sentie en insécurité.
On se sent pas toujours en sécurité en dehors du campus parce qu'il y a beaucoup de manifestations. C'est pas très propre. Mais d'un point de vue d'étudiante, pour ce qui est de l'université, l'endroit est assez apaisant. On est bien entouré, on a pas mal d'infrastructures qui sont franchement correctes. Donc moi, je m'y sens bien à Brest, dans la globalité.
Je me considère plutôt à l'aise. Après, ça va dépendre des quartiers. Depuis quelques temps, du coup, il peut y avoir un sentiment un peu plus grand d'insécurité suite à certaines attaques de groupuscules, on va dire plutôt fascistes, d'extrême droite, comme le Talion ou d'autres. Notamment par exemple au Café de la Plage, mais il y en a d'autres beaucoup plus récentes. Et donc effectivement, ça peut créer un sentiment d'insécurité, peut-être vers Saint-Martin ou autre, et dans certains bars, pour les étudiantes, et surtout les étudiantes aussi quand même, le soir.
Oui, moi je me sens à l'aise dans la ville de Brest. Le cadre de vie, personnellement, moi je trouve ça assez sympa, parce qu'il y a, enfin, dès qu'il fait beau, franchement c'est agréable. Comme aujourd'hui, là il fait beau, tout le monde est sorti, on est en short. Mais c'est vrai que le point négatif, je dirais, c'est dès qu'il fait pas beau, où là, pour le coup, Brest, ça fait un peu plus dépression. Et là, dès qu'il y a le soleil, tout le monde est plus souriant.
En globalité, bon nombre d'étudiants se sentent donc à l'aise dans la ville de Brest et apprécient le cadre de vie. Les points forts de la ville, ce n'est clairement pas la météo. Beaucoup m'ont confié la difficulté d'étudier quand le temps est mauvais. Forcément, ça touche beaucoup au moral et au bien-être. Et pour bon nombre de jeunes et d'habitants en général, il y a un sentiment de peur qui se crée au moment de sortir la nuit dans la rue, que ce soit seul ou en groupe, notamment chez les femmes. Avec la montée des agressions verbales, physiques et sexuelles et des mouvements politiques radicaux, on a tendance à rester chez soi pour se protéger. La ville a mis en place des médiateurs de tranquillité urbaine, mais le danger reste toujours bien présent. Alors, que met en place la ville de Brest pour répondre aux besoins des étudiants? Et surtout, est-ce qu'ils en sont satisfaits? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Clémence qui nous parle de son rapport au milieu associatif.
Alors, personnellement, je suis assez satisfaite des services mis en place. Par exemple, à l'UBO de Brest, il y a des associations par filière. Donc, par exemple, pour économie de gestion, c'est l'association EcoPlus, qui propose divers services pour tous les étudiants, mais aussi l'ACID de droit. Et les associations, entre elles se combinent et elles permettent de créer plus de projets. Moi, par exemple, je fais partie du bureau des étudiants de l'association EcoPlus et ça me plaît énormément. Aussi, dernièrement, on avait vu passer une association qui alertait contre les danger de l'alcool et du tabac et tout ça. Et c'est vrai qu'on est, en tant qu'étudiant, on est entouré, je trouve. Parce qu'il y a pas mal d'associations autour de nous.
Je suis dans une asso de bio et on fait des sorties et tout dans la forêt. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais genre en gros, on fait des sorties estrants et tout et on va regarder la faune et la flore qu'il y a. Et franchement, niveau des assos à la fac, je trouve ça génial. La cohésion et tout, il y en a plein et tout, c'est fun.
Le tram, ça améliore quand même beaucoup pour accéder à la gare, c'est beaucoup plus simple. Pour faire les liens entre les différentes universités, ça c'est vraiment une grande amélioration, je trouve.
Même pour les étudiants, tout ce qui est au niveau transport, on a déjà un premier tram et il y a une autre ligne qui a été créée là. et qui fonctionne plutôt bien. Donc on est plutôt bien desservi maintenant pour les facs.
C'est grave pratique parce que moi j'habite vers Kerguat et avant qu'il y ait le tram, bah, pour tout ce qui est sorti et tout, même pour aller au bar le jeudi, bah, fallait rentrer genre super tôt si tu voulais avoir un bus, sinon fallait se taper 2 heures de marche. Autant te dire que bah, les sorties c'était pas trop possible, surtout quand t'as pas de voiture. Donc là comme ils ont une rame qui ferme assez tard, c'est vraiment pratique.
Avec l'arrivée du tram à Brest, je trouve que les transports en commun et le service est plus dérangeant pour certaines personnes. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que du coup ça a arrêté totalement le passage des bus. Alors que c'est vrai que les bus permettaient d'emmener dans des endroits à proximité de nos logements où les horaires convenaient mieux également parfois. C'était mieux avant quand il n'y avait pas le tram et plusieurs étudiants sont d'accord avec moi. Mais il y a une grande partie quand même de la population qui sont satisfaits vu que ça va plus vite et puis ça amène d'un point A à un point B qui traverse plusieurs arrêts dont les gens sont satisfaits. Hein.
On peut aller sur les terrains de foot ou même genre les espaces verts. Il y en a pas mal, donc c'est assez intéressant. Mais oui, il y a les cinémas, il y a de quoi faire du sport, comme de l'escalade, avec notamment au Capucin et même ailleurs. Il y a des terrains de foot où on peut faire. Donc il y a pas mal de structures, que ce soit sportives ou même culturelles, qui sont plutôt intéressantes. Ou même que ce soit les bars, c'est aussi intéressant. Il y a quelques bars, quelques boîtes aussi pour ceux qui font la fête, donc c'est plutôt pas mal.
Bah nous on va beaucoup par exemple pour les cours au Capucin, et même bah, moi perso j'y vais, et je trouve des endroits comme ça c'est vraiment bien parce que ça réunit plein de monde différents. Comme il n'y a pas longtemps il y a eu la Brest Urban Zone aussi où il y a eu plein d'activités, et ça c'était vraiment cool quoi. Enfin on voit que ça bouge et que les différents lieux ils servent à quelque chose et qu'ils ne sont pas juste là pour décorer quoi.
Et oui, le maire de Brest a mis un point d'honneur dans son programme à urbaniser la ville pour tenter d'améliorer le quotidien des habitants. Avec la réhabilitation des Capucins, on a désormais un espace de vie public aux multiples usages qui permet de réunir du monde et de créer du lien social et culturel. Cela contribue aussi à mettre en avant des petits commerces indépendants. Et les offres répondent à la demande. La ville a ouvert une nouvelle rame de tramway après des mois de travaux intensifs qui fonctionnent jusqu'à 1h du matin, ce qui permet une meilleure mobilité de jour comme de nuit. Les étudiants en sont globalement satisfaits, même s'il a pu dérégler le fonctionnement d'autres moyens de transport en commun, comme le bus. De plus, des étudiants continuent de perpétuer le mythique jeudi étudiant. On a donc des assos étudiantes qui proposent de nombreuses activités et soirées, que ce soit au centre-ville et au port. Avec toutes ces infrastructures et dispositifs proposés aux étudiants, on se demande donc s'ils se sentent représentés et soutenus par la ville et dans les programmes proposés par les candidats aux municipales.
Alors sur ça, je vais un peu défausser parce que je ne suis pas vraiment tout ce qui est politique, j'avoue. Je ne suis pas le plus grand fan sur ça. Moi, personnellement, en tout cas, ça ne change pas grand-chose à ma vie, les élections municipales. Mais après, je sais que je suis dans une asso Atlas. Et du coup, eux, ils sont vraiment à fond sur tout ce qui est politique, etc. Moi, je ne suis pas assez informé, je pense, pour te répondre à cette question.
En tant qu'étudiant, je pense que la ville de Brest devrait parler davantage de ces notions, comme par exemple les dangers à l'alcool, au tabac, l'insécurité pour les étudiants, ou encore l'harcèlement, le cyberharcèlement, plein de notions comme ça dont les étudiants sont soumis. Mais en tout cas, on a quand même la possibilité de, nous en tant qu'étudiants, se rapprocher de certaines associations pour se sentir écouté et compris et se faire aider. Bah, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis personnel là-dessus, mais je pense que l'aspect le plus important reste la sécurité quand même. Pas spécialement à Brest, mais dans une ville étudiante où à Brest, quand même, la part d'étudiants est quand même très élevée.
Après, je trouve que le seul problème pour les étudiants, ici, c'est vraiment l'orientation. Je trouve que, surtout en L1, ils partent du principe qu'on veut rester en L1. Et du coup, on nous propose vraiment pas grand-chose, ou alors on nous guide très peu dans les démarches à faire pour pouvoir... changer ou quoi que ce soit.
Cette question, elle fait un peu mouche. En les interrogeant, j'ai pu remarquer que les étudiants ne se sentent pas concernés par les municipales, en général. pour beaucoup, ils ne vivent pas à Brest et votent dans une autre commune. Et surtout, ils ont l'impression que la parole et les intérêts des jeunes ne sont pas assez pris en compte dans les décisions politiques. Ils se sentent davantage représentés dans les associations et programmes proposés au sein de l'université. Malgré tout, ils m'ont quand même fait part de leur volonté et idées de projets qu'ils aimeraient mettre en avant et qui permettraient d'améliorer leur quotidien dans la ville de Brest.
Même s'il y a quand même quelques trucs qui circulent à la fac, etc. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois pas grand-chose qui se passe à Brest niveau culture. Donc, par rapport à ça, ouais, c'est pas. Je pense que ça pourrait s'améliorer. Et justement, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que les gens s'intéressent aussi beaucoup plus à la culture maintenant. Après, je sais que nous, après, pour s'informer, on a les BU et maintenant, ça se fait énormément aussi par les réseaux sociaux. Mais je sais que, par exemple, après, je sais pas s'il y en a un à Brest de théâtre ou quoi, mais moi, j'aimerais bien, en vrai, aller voir une pièce de théâtre ou quoi. Juste pour essayer, je ne suis pas forcément intéressé par le truc, mais essayer au moins une fois. Et justement, à Brest, j'ai l'impression que ce n'est pas trop développé ou c'est très niche, quoi. C'est vraiment, il faut être dans le milieu et connaître ou connaître les gens qui font la pièce de théâtre, etc., pardon, pour savoir qu'il y en a, quoi. Après, sur la culture, je trouve qu'il y a des choses mises en avant, mais il n'y a pas énormément non plus. Je sais qu'il y a le musée de la marine qui est dans les trucs globaux de Brest, quoi. Mais après, justement, je trouve qu'on n'est pas trop informé dessus. Enfin, y a pas de... Si on n'est pas dedans, je trouve qu'on n'a pas trop d'infos.
Enfin, le moyen de transport, ça ne va pas venir maintenant. Mais je pense que dans quelques années, il faudra peut-être desservir aussi tout ce qui est aéroport. Après, là, ça ne concerne pas moi. Mais un tram qui va à l'aéroport, ça pourrait vraiment être plus facile pour la ville et pour les personnes. Au lieu de prendre un taxi ou même de demander à... quelqu'un de venir nous chercher, là, il y a le tram, comme pour la gare, en fait, tout simplement. Donc, je pense que ça peut être plus intéressant pour Brest. Peut-être ouvrir plus de commerces. Je sais qu'il y a pas mal de personnes sur la population brestoise, quelques adultes, plus des trentenaires ou un peu plus, qui trouvent que, par exemple, sur la rue de Haute-Jaurès, tous les commerces sont en train de s'éteindre. C'est une remarque que les gens font et que j'ai... que j'ai remarqué, et moi personnellement je sais pas plus que ça, parce que je trouve qu'il y a pas mal de restos sur Bad Siam, donc peut-être ouvrir plus de restos, plus d'attractivité, et même peut-être un peu plus d'activité, mais voilà.
Du coup, je pense qu'à Brest, il pourrait y avoir davantage de forums étudiants, par exemple, pour se rencontrer, parce que malgré que la fac puisse aider à faire des rencontres, pour certains étudiants c'est compliqué d'aller vers les autres, surtout... en début d'année. Et également, je parle pour les étudiants internationaux, parce qu'il y a une grande part d'étudiants internationaux ici à l'UBO, qui restent entre eux, entre espagnols, latino-américains, etc., et qui souhaiteraient faire partie de groupes d'amis français. Donc je pense que des forums organisés ou des soirées organisées par la ville de Brest pourraient aider les étudiants davantage.
Ce que j'ai pu retenir de ces échanges, c'est que les étudiants sont à la recherche de liens sociaux, de dynamisme, d'échanges et d'attractivité. Tous ces éléments qui favorisent le bien-être dans une ville. Même si les jeunes ne se sentent pas forcément concernés par les élections municipales, ils sont tout de même conscients des enjeux de sécurité, de précarité, de santé mentale et d'environnement. À voir désormais si les jeunes seront au rendez-vous aux urnes ce dimanche 15 mars.
C'était un reportage de Romane Poulazan, notre bénévole et ancienne stagiaire sur Radio U. Merci à elle pour ce reportage. C'est déjà la fin de C'est vous qui dites. Retrouvez-nous demain, même heure. On continuera les interviews des municipales et on accueillera notamment Yves Pagès et Stéphane Roudot. Bonne soirée.